Effectivement, donc si vous étiez là la semaine dernière, Simon nous a enseigné sur le premier chapitre de cet épître de Jean. On a reçu cet encouragement que Jean fait à ses premiers lecteurs à être vrai sur notre réalité de pécheur, sur notre tendance naturelle à faire ce qui est mal. Il nous a été rappelé cette promesse merveilleuse de Dieu quant au pardon du mal que nous faisons, afin que la relation qui est entre Dieu et nous soit restaurée. Alors, quand le passage de ma prédication se base sur un récit ou une histoire, je vous propose simplement peut-être d'écouter le texte. Sur ce passage, je ne le ferai pas. L'apôtre Jean a un style d'écriture qui se prête bien à la lecture. Et d'ailleurs, cet épître, c'est une lettre. Et une lettre, ça se lit. N'hésitez donc pas à sortir votre Bible si vous l'avez oubliée. Si vous n'en avez pas, il y en a au fond sur la table à côté de la grande porte. N'hésitez pas à vous servir. Ça vous permettra notamment de revenir au texte quand on le décortiquera ensemble. Quand on décortiquera cet argumentaire que Jean fait avancer. Pour ma part, je vais lire dans la Bible du Semeur. Et donc, on est dans 1 Jean, chapitre 2, et on va lire du verset 3 au verset 11. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Mes chers amis, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris, il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se manifeste vraiment en Christ et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et par conséquent, il est dans la lumière. Aucun obstacle ne risque de le faire tomber. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Chers amis, le Seigneur souhaite que chaque chrétien demeure en communion avec lui. Alors non, ce n'est pas la phrase d'intro de ma prédication, c'est la conclusion. La vérité à retenir de cette partie de la lettre de Jean, c'est que Dieu veut que toi, tout comme moi, nous demeurions en communion avec lui. Maintenant que nous avons commencé par la fin, que vous savez où est-ce que je vous emmène, voici comment nous allons avancer. Une fois qu'on aura compris le sens de cette phrase, du message central de ce texte, on analysera la pensée de Jean. Et pour conclure, on parlera d'amour fraternel. Donc, le Seigneur souhaite que chaque chrétien demeure en communion avec lui. Pour faire cela, il guide et instruit les croyants pour mettre leur vie au clair afin qu'ils vivent en communion avec Dieu. C'est le fil rouge de tout l'épître et pas seulement de ces quelques versets qu'on a lus ce matin. Cette communion, c'est d'avoir une relation intime et continue avec le Seigneur. C'est une connexion profonde avec lui. C'est, si vous me permettez la métaphore, un signal 5G à 5 bars. Nous vivons dans un environnement où un travail donne accès à une récompense. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, il ne faut pas voir la communion, la relation avec Dieu ainsi. Si vous avez au moins mon âge, je ne vous le donne pas, mais voilà. Si vous avez au moins mon âge, vous me voyez à peu près, vous avez connu peut-être cette époque où il y avait des minutes de communication sur des cartes à puce. Et on devait les utiliser dans des cabines téléphoniques. Oui, certains font ça, oui. Pas tous. Depuis toujours, et sans attendre que Free devienne opérateur mobile, Dieu nous propose l'illimité. Il veut cette relation avec nous. Cette communion n'est pas une récompense pour nos actes, c'est un état auquel nous pouvons accéder. C'est un état. Dieu nous attend dans cette communion avec lui. Mais comme nous le verrons, nous y sommes gênés, empêchés. Mais au fait, pourquoi vouloir être en communion avec le Seigneur par l'Esprit-Saint ? Je veux croire que nous ne sommes pas tous motivés par la même chose, mais cette relation d'intimité avec Dieu, c'est chouette. Et ça pour plusieurs raisons. Et vous en trouverez peut-être d'autres, mais je vous en donne plusieurs. Une raison rationnelle. Parce que me laisser guider par celui qui a créé l'univers, ça fonctionne mieux que de tâtonner et de me planter. L'idéaliste, parce que j'ai confiance qu'il fait les choses bonnes et que j'ai envie de faire de même. La sentimentale, parce que je veux aimer Dieu tout comme il m'aime et je veux me sentir proche de lui à chaque instant. Et finalement, l'impatiente, parce que l'éternité avec Dieu, ça commence maintenant. À côté de ça, à côté de ces bonnes raisons, Jean nous met en garde. Notre désamour, notre haine, notre indifférence envers nos frères et sœurs nous empêche d'avoir un signal de bonne qualité dans notre relation avec Dieu. Voyons ensemble l'argumentaire de Jean dans ce texte. Ce texte n'est pas un texte évident à comprendre en première lecture, vous l'avez peut-être vu, mais si à la fin de la lecture vous vous êtes dit « Mais au fait, de quoi il parle, Jean ?» Soyez rassurés, parce que ça c'est l'effet que ça m'a donné aussi à la première lecture. Puis après j'ai un peu travaillé. On a cette impression qu'il nous manque le sous-titre quand l'auteur parle d'anciens et de nouveaux commandements, ou encore quand il évoque les lumières et les ténèbres. Notre souci dans ce texte, c'est que ces notions ne sont pas juste écrites pour apporter une touche poétique au texte. On ne peut pas simplement le dire, bon, je n'ai pas tout à fait compris de quoi il parle, mais on va regarder le reste et ça va bien se passer. L'apôtre déroule un argumentaire et je crois que l'effort de comprendre nous permet de dépasser la conclusion quelque peu moralisatrice qui serait de détester son frère en Christ, c'est mal. Soyons un peu plus fins que ça. Oui, c'est mal, mais soyons plus fins que ça. Parce que oui, c'est un peu naïf comme phrase, mais si on garde juste le dernier verset, c'est-à-dire le verset 11, « Celui qui déteste son frère est dans les ténèbres », on n'a pas grand-chose de positif à retenir. L'argumentaire de Jean, lui, est en 5 points. Aimez-vous les uns les autres par des actes. Par les actes. On comprend ça au verset 9. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Comme je le disais plus tôt, on ne peut pas esquiver l'effort de se gratter un peu la tête pour savoir c'est quoi cette lumière dont nous parle Jean. Et pour cela, je profitais que Simon a déjà prêché, comme ça je peux vous emmener au verset 5 du chapitre 1. Dieu est lumière, il n'y a point de trace de ténèbres en lui. Par conséquent, Si Dieu est la source de la lumière, alors celui qui marche dans la lumière ne doit pas être si loin de Dieu. Comme je le disais, la communion avec Dieu, c'est le fil rouge de cet épître. C'est la recherche d'une connexion profonde, d'un signal à 5 barres. Alors, reformulons ensemble ce verset 9. Celui qui prétend être en communion avec Dieu tout en détestant son frère est encore loin de Dieu. Et Jean, il est malin en disant ça. Il est malin parce qu'il dit 2 choses et pas une seule. Il fait effectivement que le constat que haïr son frère brouille le signal avec Dieu, qui nous en éloigne. Mais il dit aussi quelque chose de plus subtil sur la condition humaine. L'homme peut prétendre être en communion avec Dieu sans l'être. Il peut le prétendre. L'homme peut mentir aux autres sur l'état de sa relation avec Dieu et surtout, et peut-être, se mentir à lui-même sur sa relation avec Dieu. Pour éviter de se mentir à soi-même, je vous pose la question suivante. Que pensez-vous que Dieu dirait là maintenant sur votre relation avec lui? Ramenons cette capacité à se mentir à soi-même vis-à-vis de notre amour pour les frères et sœurs. Imaginez un peu, avec lui, j'ai vraiment du mal, donc je ne vais surtout pas aller lui parler. Mais avec les autres, tout va bien, je les aime. Du coup, s'il n'y en a qu'un qui m'insupporte, c'est pas si grave. Et c'est là où Jean nous dit que c'est pas si grave. Aimer son frère au verset 10, ce n'est pas juste aimer ce qui nous est aimable. C'est, je crois, faire l'effort d'avoir de l'amour pour celui qui ne nous est pas aimable. Jean parle d'un nouveau commandement, qui est en fait un ancien commandement. Vous avez cette double affirmation au verset 7 et 8. Vous pouvez relire tout le chapitre 1 de l'Épître, vous ne trouverez aucune mention de cet ancien ou de ce nouveau commandement. Pour le trouver, il faut se mettre dans la peau de l'auteur. Qui est Jean? Qu'en sommes-nous? Quelle est la différence entre Jean et les premiers destinataires de la lettre? Jean, c'est l'auteur de l'Épître, de fait. Mais c'est surtout l'apôtre Jean, auteur de l'Évangile de Jean et un des 12 qui était avec Jésus. Le nouveau commandement que Jean donne reprend une parole de Jésus qu'on retrouve en Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau, et c'est Jésus qui parle. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Voici le nouveau commandement dont parle Jean. C'est de l'amour pour les autres dont il est question. C'est pour cela que Jean invite ses lecteurs dans les versets 3 à 5 à obéir au commandement de la parole de Dieu. Jean fait le rapprochement entre être en communion avec Dieu, vivre dans la lumière et l'obéissance au commandement de la parole. D'un côté, nous avons vu au verset 10 que celui qui aime son frère est dans la communion avec Dieu. D'un autre côté, au verset 5, l'auteur nous dit que celui qui obéit à la parole est uni avec Dieu. Au début et à la fin de notre passage, Jean dit la même chose. Au milieu, il annonce le nouveau commandement qui est de s'aimer les uns les autres. Voilà, c'est juste, entre guillemets, ça, l'argumentaire de Jean. En ayant de l'amour entre vous, entre nous, nous obéissons au commandement de Dieu et nous sommes en communion avec lui. Puisque nous en sommes arrivés là, comment est-ce qu'on est dans la présence de Dieu? Quand Jésus était parmi ses disciples, c'était simple d'être dans la présence de Dieu. incarné par Jésus-Christ. Il suffisait d'être là. Les premiers lecteurs de la lettre et nous sommes dans le même bateau. Nous attendons désormais avec impatience le retour de Christ. Mais Dieu fait bien les choses. Tout à l'heure, j'ai cité le verset 34 du chapitre 13. En réalité, les chapitres 13 et 14 de l'évangile de Jean forment un tout. Et je lis en Jean 14, versets 21 et 23. Jésus lui répondit, « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Et puis, si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. » Jésus, ici, parle de mettre en pratique ses commandements. Clairement, il fait référence à celui donné quelques versets plus tôt, le nouveau commandement. Le plus étonnant, c'est que c'est le résultat produit par cette obéissance. Dieu, le Père et le Fils viendront habiter chez le croyant. Alors, si vous connaissez la fin de l'histoire, vous me voyez peut-être arriver avec mes gros sabots. L'Esprit Saint est actif dans le croyant et apporte la lumière dans sa vie. En effet, je lis au verset 27, toujours dans l'évangile de Jean, « Mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. » Cette présence de l'Esprit Saint dans le croyant, c'est la source de la lumière pour nos vies. C'est celle qui permet à Jean de dire dans les Épîtres qu'elle nous permet d'éviter les obstacles pour nous-mêmes et d'être un obstacle pour les autres. Il conclut ainsi au verset 10 et 11 de notre passage que celui qui demeure dans la lumière, et donc dans la connexion à l'Esprit Saint, ne tombera pas à cause des obstacles. À l'inverse, celui qui n'a pas cette connexion ne sait pas où il va. Si vous cherchiez comment comprendre ce beau verset où Jésus nous dit qu'il nous donne sa paix, Jean nous dit que Jésus nous a donné une lampe frontale bien puissante qui nous permet d'y voir la nuit comme en plein jour. Et cette lampe, elle ne fonctionne pas à pile. Mais grâce à la qualité de notre connexion à l'Esprit-Saint. Ainsi, nous avons fait le tour du sujet entre obéissance, commandement, amour fraternel, lumière, communion à Dieu et Esprit-Saint. C'est une bonne chose que d'avoir compris un texte, d'en avoir un peu extrait l'essence. Et c'est encore mieux quand ça crée du changement dans nos vies. Le Seigneur souhaite que chaque chrétien demeure en communion avec lui. Cette vérité nous apparaît vraiment comme un souhait, comme un encouragement. Le Seigneur a tellement cela à cœur qu'il nous a donné l'Esprit Saint pour vivre cette communion avec lui. Ne le voyons pas comme un ordre de faire toujours plus ou de faire mieux, mais comme une grâce que le Seigneur nous fait. Ce que l'on a vu, c'est que malgré la volonté du Seigneur, nous avons notre responsabilité dans la qualité de la communion avec lui. La communion, connexion, vous mettez le mot que vous voulez d'ailleurs. Notre désamour pour nos frères et sœurs limite, empêche, bloque notre communion avec Dieu. Cette réalité, c'est un peu comme un pare-brise. Comme ce pare-brise. Avec le temps et les kilomètres, le pare-brise de votre voiture, je ne suis pas dans la métaphore, de votre vraie voiture, va rencontrer un nombre incalculable d'insectes. Des oiseaux vont peut-être même s'entraîner au tir sur cibles mouvantes et peut-être des fines couches de poussière vont s'agglomérer, couche après couche, dessus. Tout cela se passe progressivement, mais voici que vous prenez la route plein ouest et qu'il se fait déjà tard, que le soleil est bien bas. Là, devant vous, est révélée la triste vérité. Il est quand même super sale, ce pare-brise. Un coup de molette, 2 secondes de pchit et 3 coups d'essuie-glace, et vous voilà avec un pare-brise par lequel on y voit quand même bien mieux. De quoi vous rendre heureux et satisfait jusqu'à votre arrivée à destination. Imaginez maintenant ce pare-brise entre vous et Dieu. À chaque fois que vous allez garder de la rancœur pour un frère, c'est une couche de poussière en plus qui va finir sur votre pare-brise. Ah, c'est peut-être pas grand-chose. Votre relation ne va pas passer du tout au tout. Toutefois, couche après couche, votre connexion à Dieu va se détériorer. La lumière de Dieu va avoir du mal à pénétrer jusqu'à nous. Et malheureusement, un coup de pchit ne suffira pas. C'est à la main qu'il va falloir nettoyer. Qu'il va falloir revoir des relations pour remettre de l'amour là où il n'y en avait pas, où il n'y avait pas assez peut-être. Le texte, notre texte de ce matin, parle de haine. Mais l'indifférence me semble beaucoup plus actuelle. Franchement, à part son voisin trop bruyant, on ne haït plus grand monde aujourd'hui. Par contre, on a une profonde et réelle indifférence de l'autre. Depuis peut-être la personne qui est devant vous dans la queue au supermarché, jusqu'à nos collègues du bureau d'à côté. Et en passant peut-être par notre frère ou sœur en Christ. Alors comment aimer son frère ? La société nous dit, et bien souvent nous le chante, que l'amour, ça ne se commande pas. L'amour en tant que simple émotion, oui, peut-être. Je ne suis pas assez calé pour vous faire une prédication là-dessus, de toute façon, ce n'est pas le sujet. L'amour que Jésus avait pour ses disciples, ça se vit, ça se montre et ça s'apprend. Juste avant de parler à ses disciples du nouveau commandement et de l'envoi de l'Esprit-Saint qu'on a vu, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et quand je vous disais que les chapitres 13 et 14 de l'évangile de Jean forment un tout, ce récit-là, il est juste au début du chapitre 13. Jésus, le maître, s'est abaissé comme serviteur de ses disciples. C'était une marque visible de son amour pour eux. Et il leur expliquera qu'il a fait ça en exemple pour eux. Cet acte, il a un double sens. Le premier, c'est clairement de rendre service. Surtout que les pieds, à l'époque, étaient vraiment, vraiment sales, hein, à traîner par terre. Il n'y avait pas le bitume, tout ça. Le second est symboliquement le pardon des péchés, en ôtant la saleté sur le corps des disciples. Jésus y fait une référence dans ce passage. Rendre un service et pardonner son frère sont deux marques concrètes d'amour fraternel. Et Jésus l'a fait afin que nous le fassions à notre tour. Alors un produit qui marche bien pour nettoyer les pare-brises, c'est l'écoute. Nous sommes tous au bénéfice de la même grâce divine par Jésus-Christ. Et c'est une bonne nouvelle, parce que de temps à autre, suivant nos périodes de vie, on a tous besoin qu'on nous rappelle combien l'amour de Christ est grand. Personne n'est plus fort que les autres face aux épreuves de la vie. Et j'aime même à croire que... Pardon, j'aime même à croire que là, j'ai perdu ma ligne, mais ça, c'était pas là. Euh... Voilà, j'y suis. Personne n'est plus fort que les autres face aux épreuves de la vie, et j'aime même à croire que l'Éternel aime mettre à l'épreuve celui qui se croit fort. Cela veut donc dire que nous sommes capables d'avoir envers un frère ou une sœur une écoute bienveillante, amicale et qui restaure. Et dans cet exercice, dans ce type d'échange, je ne peux que vous encourager à passer beaucoup plus de temps à écouter qu'à parler. Et mon dernier produit de la gamme que je peux vous conseiller, toujours pour les pare-brises, hein, c'est la prière. Que ce soit avec votre frère ou seul chez vous, intercéder pour l'autre aura un double effet. Le premier, c'est qu'en priant pour les autres, on va s'intéresser à l'autre, de fait, à ce qu'il vit. Et le second, c'est que nous allons rentrer en communion avec le Seigneur. En remettant à Dieu les petits tracas et les grands défis de nos frères, nous allons confesser avoir confiance en l'Éternel bien plus qu'en nos propres forces. La prière, c'est un moment où on arrête de chercher des solutions rationnelles et efficaces pour sortir de telle ou telle situation. C'est juste un acte de foi de tout remettre à Dieu. Voici donc quelques pistes pour pratiquer l'amour autour de nous, dans la communauté. L'objectif de tout ça est de renforcer notre communion avec le Seigneur par l'Esprit Saint. Alors cette semaine, c'est la reprise des groupes de maison. Si vous cherchez un terrain ou pratiquez ces trois exemples d'amour fraternel que je viens de citer, rejoignez un groupe de maison. Et je n'aurais pas été responsable, superviseur des groupes de maison, je vous aurais dit la même chose. Rejoignez un groupe de maison. C'est un lieu idéal par la confiance, la bienveillance et la discrétion qui y règnent entre les participants, pour mettre en pratique l'amour fraternel. Nous avons chanté tout à l'heure le chant « En Jésus seul ». Et si les musiciens veulent bien revenir sur scène, je vous propose qu'on reprenne le premier couplet qui nous parle des effets de la communion avec Dieu. Et vous pouvez vous lever.